bonjour. Je vais vous présenter nos réflexions sur une approche d'évaluation des environnements informatisés d'apprentissage. Donc, nous avons commencé notre travail par analyser un corpus constitué de 18 publications scientifiques récentes sur l'évaluation des UEH, pour voir comment les gens procèdent pour évaluer ces environnements, quels sont les critères ou quelles sont les dimensions de cette évaluation. Donc, c'était l'objet d'une communication à Gênes. Donc, on a retenu pas mal de résultats. Mais là, je me contente de présenter ces résultats en disant que les trois dimensions sont généralement citées. Ce n'était pas dont les 18 publications qu'on a analysées, à savoir le critère d'utilisabilité, le critère d'utilité et le critère d'acceptabilité. Donc, quand on parle de l'utilisabilité, on fait référence certainement à l'efficacité du système, à l'efficience du système et à la satisfaction de l'utilisateur du système, bien sûr. Et là, je parle du système informatique indépendamment, il s'agit d'un environnement d'apprentissage ou autre. Et quand on parle de l'utilité, on fait référence à l'utilité fonctionnelle par rapport à ce qui a été développé et par rapport à l'usage qu'on fait de ces fonctions ou ces fonctionnalités. L'acceptabilité, là, on touche un peu la représentation mentale, la représentation que fait l'utilisateur de ce système. Et ça permet après l'appropriation au niveau de l'usage, au niveau du système. Donc, à partir de là, on a notre propre acceptation de qu'est-ce qu'un environnement informatisé d'apprentissage humain. Donc, pour nous, un environnement d'apprentissage humain est constitué de l'ensemble de ressources humaines et matérielles. Donc, mis à la disposition de l'apprenant pour réaliser une activité d'apprentissage. Donc, par ressources humaines, on entend l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus d'apprentissage. Les acteurs pourraient être les enseignants, les apprenants, l'institution universitaire, l'organisation d'une façon générale. Et par les ressources matérielles, on entend le système, essentiellement le système informatique, et les ressources pédagogiques que je n'ai pas citées ici, mais bon, on peut éventuellement la mettre sous la rubrique ressources matérielles. Pour les systèmes informatiques, donc généralement quand on parle, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on parle de quatre catégories de fonctions, donc à savoir la gestion du cours, suivi de l'apprentissage, administration technique et interface apprenant. Bien sûr, il y a d'autres définitions, mais là je me contente de cette brève définition de qu'est-ce qu'un système informatique dédié, si vous voulez, à l'apprentissage. Donc, à partir des lectures, donc on a pu formuler notre problématique. Donc, c'est l'évaluation des UEH, c'est le constat qui est dominé par des approches IHM. Donc, quand on parle de l'IHM ici, c'est l'interaction homme-machine, fait référence à une discipline qui regroupe l'informatique, l'ergonomie, la psychologie, ainsi de suite. Donc, ce qu'on constate aussi à partir de l'analyse, donc non prise en compte des spécificités de IH, n'oublions pas que ce sont des dispositifs qui vont aider l'utilisateur dans une démarche d'apprentissage, dans la finalité de favoriser l'apprentissage, et les difficultés qu'on peut rencontrer quand on analyse, quand on évalue tel dispositif, c'est le fait qu'on est face à un outil informatique, certes, mais un outil informatique particulier parce qu'il y a l'utilisateur à double charge cognitive, si j'ose dire. Donc, il doit apprendre à maîtriser l'outil et il doit aussi apprendre la matière qui est finalement l'objet de son activité. On parle d'objet de l'activité, on en parlera après. Voilà, donc à partir de là, donc on a défini notre méthodologie d'analyse. Donc on s'est penché sur la littérature en IHM, du moment que c'est le champ disciplinaire qui traite le plus, si vous voulez, l'évaluation des UEH, et les sciences humaines et sociales pour voir qu'est-ce qu'ils présentent comme modèle et comme approche d'évaluation. Ce qu'on peut tirer à partir de cette lecture, donc, on peut éventuellement partir de la théorie de l'activité comme cadre théorique d'analyse et d'observation des UEH. Et quand je parle ici de la théorie d'activité, je ne rentre pas dans les détails, tout simplement je fais référence, même si ça n'a pas été ici, au modèle d'Angstrom et au modèle conversationnel de Laurillard pour saisir la nature des interactions entre deux acteurs. On va voir à quel niveau je peux éventuellement intégrer le modèle conversationnel pour pour mieux comprendre ou mieux saisir les interactions précisées par le modèle d'Angstrom. Donc, deux approches qui se dégagent, les approches IHM et les approches sciences humaines et sociales. Donc, dans les approches IHM, je ne vais pas détailler parce que là aussi, on peut en parler pendant 2 heures. Donc, il y a plusieurs classifications des méthodes d'évaluation. Là, on s'est basé sur la classification de Snack de 90. Et pour lui, il y a deux approches. Il y a les approches empiriques. Donc là, comme représentant, si vous voulez, de l'approche empirique, il y a la méthode de questionnaire et d'entretien, mais on a d'autres méthodes, bien sûr. Et l'approche analytique avec des sous-approches, si j'ose dire. Méthodologie avec une méthodologie informelle. Et là, on fait recours à l'expert. Donc il n'y a pas de formalisme derrière, pas de modèle forcément, et des méthodologies formelles où on peut évaluer en se basant sur des heuristiques ou en se basant sur les modèles de tâches, par exemple, pour avoir une idée sur l'environnement. Donc, les approches SHS, ou sciences humaines et sociales, donc là, on constate que les méthodologies d'évaluation reposent le plus souvent sur des fondements théoriques que l'on veut mettre en évidence dans la situation de formation. Mais ce qu'on peut tirer en conclusion à partir de cette lecture, qu'il n'y a pas vraiment de protocole bien établi pour l'évaluation en partant des approches sciences humaines et sciences sociales. Il y a un cadre théorique, certes, qu'on peut l'exploiter pour évaluer ces environnements, ces outils, ces dispositifs informatiques. Donc, on a fait notre choix théorique, entre guillemets. Donc, la construction d'une méthodologie d'évaluation des UIH nécessite d'évaluer les activités humaines en situation. Ben là, c'est un choix qu'on fait. Et d'où l'intérêt, si vous voulez, de prendre le modèle conversationnel et la théorie de l'activité comme base pour nos réflexions afin de saisir cet objet qui est l'environnement informatique ou informatisé d'apprentissage. Là, je présente rapidement dans deux diapositives le modèle d'Angstrom, mais sans entrer dans les détails, et le modèle de Loriard pour conclure après. Donc, j'ai mis théorie de l'activité, mais je ne décris en aucun cas la théorie de l'activité. Il s'agit d'un simple du modèle d'Angstrom, donc qui est représenté par ce triangle. Donc, il faut savoir retenir qu'Angstrom s'est basé sur la théorie de l'activité provenant des écrits de Liantiev et de Vygotsky pour proposer ce modèle que vous voyez ici. Donc, comme on peut le constater, l'activité est définie dans une structure reliant le sujet à un objet. L'objet, c'est ce que l'utilisateur veut faire. Et ce qu'on peut constater, qu'il y a 3 médiations entre les 3 entités de base, à savoir le sujet, l'objet et la communauté. Ces 3 médiations, donc on a les outils, les règles, la division du travail. Donc Angstrom, il a travaillé essentiellement sur les règles et sur les divisions, la division du travail. Donc, la notion de règle représente les normes, les conventions, les procédures administratives ou d'autres, chose qui pourrait faciliter l'échange entre le sujet et la communauté. La division du travail, ça concerne l'organisation définie par la communauté. Et bien sûr, l'outil, c'est l'artefact au sens large du terme. Dans notre cas, comme on parle de dispositif d'apprentissage, ça pourrait être un artefact technique, ça pourrait être un artefact pédagogique, didactique ou autre. Donc, ce qui nous intéresse de ce modèle, qui nous permet de comprendre l'activité collective, c'est très important. Les contraintes au sein du système d'activité, parce que là on est face à un système dynamique, c'est une vision systémique de la chose, donc je n'entre pas dans les détails, mais Angstrom parle des contraintes, là il cite 4 contraintes, des contraintes de 4 niveaux de contraintes ou de contradictions, des contradictions au niveau des éléments constitutifs du modèle, des contradictions entre les éléments constitutifs du modèle, d'autres types de contraintes. Nous, par exemple, on voit bien s'il y a une modification de l'outil, cette modification de l'outil a forcément des répercussions sur la division du travail. Donc là, on est face à une contradiction, d'après le modèle d'Angstrom, de niveau 2, cette contradiction entre les 2 éléments constitutifs du modèle. À quoi va nous servir ? Donc là, j'ouvre une parenthèse. Donc si on voit bien, si on regarde bien le schéma, ben on peut dire, mais là, c'est C'est un peu simpliste comme annonce, mais je peux dire que la base, si vous voulez, les trois entités, donc là le sujet, la communauté et l'objet, les médiations qui sont là, l'outil, les règles et la division de travail, eh ben, un nuage idéal, entre guillemets, c'est un nuage qui me permet, qui assure les trois médiations, c'est-à-dire qui me propose des outils pour des outils, ce qui peut me permet de gérer la division de travail et me permet de gérer les règles, si vous voulez, qui lient les sujets aux communautés, à la communauté plutôt. Donc le modèle de L'Oréal, il va nous servir à quoi ? Donc, il va nous servir à comprendre les différentes triades, parce que là, on peut raisonner sur différentes triades, c'est la force, entre guillemets, de ce modèle. Donc, on peut raisonner sur le triade sujet, règle, communauté. On peut raisonner sur le triade communauté, objet, division du travail, sur sujet, communauté, outil. Là, j'ai pas présenté tous les triades. Donc, le modèle de L'Oréal, il va nous permettre de mieux comprendre, de saisir, c'est ce que je disais tout à l'heure, la nature des interactions, essentiellement entre la communauté, le sujet, l'outil et l'objet. Donc, le modèle de L'Oréal, rapidement, donc il décrit les éléments constitutifs du dialogue. Là, ce n'est qu'un schéma simplifié de modèle, donc je n'entre pas dans les détails, parce que là, si on voit vers le modèle, elle détaille bien l'auteur, il détaille bien la conversation, il détaille bien les interactions. Donc là, on voit donc un schéma simplifié. Donc là, ce sont les connaissances qu'on voit en haut, ce sont les connaissances conceptuelles. Et ce qu'on voit bien, ce sont les connaissances spontanées, ou connaissances du monde, quoi, du monde vécu par l'apprenant ou par, si vous voulez, l'enseignant. Donc il y a des échanges. Donc pour nous, donc peut servir donc ce modèle là, il peut servir de grille pour l'évaluation des usages. On précise des outils par exemple appropriés aux éléments du dialogue précisés dans le modèle. Et le modèle aussi, ce qui nous intéresse, nous permet d'analyser le triade sujet. Si je reviens vers le schéma, il va nous permettre d'analyser le triade sujet, outil, communauté et objet. C'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a à faire, parce qu'il reste d'autres triades. Donc, ce que je peux dire en conclusion, si vous voulez, en perspective, si vous voulez, pour terminer ce travail. Donc, si on reste sur le modèle de Dankstrom, donc il nous reste à analyser les différentes triades. Bon, les différentes triades, donc les autres triades, essentiellement le triade sujet, communauté, règle, communauté, objet, division du travail. Donc, pondérer les critères, le critère d'utilisabilité, qui est la dimension la plus utilisée, la plus fouillée, la plus travaillée, si vous voulez, en fonction des médiations souhaitées. Et là, on a, par rapport au modèle d'Angstrom, on a trois médiations. Et étudier, pour finir, l'influence des activités périphériques, qui ne partagent pas forcément l'objet de l'activité principale. Et ça, peut-être, c'est la limite même du modèle d'Angstrom, parce que là, ce qu'on voit sur le modèle, quand on parle de communauté, c'est la communauté qui partage l'objet. Et si on est avec un autre système d'activité qui est à côté et qui ne partage pas l'objet, il a peut-être une influence sur le déroulement de ce système d'activité qu'on appelle pour nous le système principal. Voilà, merci.